Vous partager ce matin, il est dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 32, ou verset 31, voilà. Comme ça, ça permettra de situer ce texte. Donc, c'est un moment où l'Église est naissante. L'Église, il y a eu le discours de Pentecôte. 5000 âmes qui se sont converties, et puis les problèmes vont pas tarder à arriver. Hein, une première comparution devant les autorités religieuses de Jérusalem. On leur a interdit de parler de Jésus, et ils vont rentrer, ils vont prier. Hein, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient chaque jour aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Il y a quelque temps de ça, je me suis arrêté sur un petit mot qui est au début du verset 34. Car. Ce petit mot qui fait une liaison entre deux choses. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est ce rapport, ce petit mot « car », ce rapport de cause à effet. Et je suis allé vérifier dans le texte grec qu'il y a ce même rapport de cause à effet, hein, qui est signifié. Il n'y avait aucun indigent, et donc les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il y a donc ce rapport de cause à effet. Ce rapport de cause à effet, j'allais dire, il doit être pris avec beaucoup de précautions. Parce que si on fait une lecture un peu superficielle de ce qui est dit là, on va arriver dans des choses qui posent problème. Donc je vais essayer d'expliquer ça et essayer d'être le plus clair possible. Les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection du Christ. Et le fait qu'il n'y avait parmi eux, aucun indigent. Ces deux choses sont liées. En d'autres termes, c'est parce qu'il y avait un souci des plus pauvres, des plus économiquement faibles, et plus largement un souci de justice, que les apôtres rendaient témoignage avec force. C'est ça ce rapport de cause à effet. Mais je vous dis, il pose problème et il faut l'expliciter. Rendre témoignage avec force, quand on le lit dans le contexte du livre des Actes, on entend qu'il y a là une action de l'esprit pressante, soit comme une force de conviction qui vient saisir les cœurs, soit par des miracles, des signes, des prodiges, et des délivrances au nom de Jésus-Christ. Et il semble que cela ne se limitait pas simplement aux apôtres, puisqu'il est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Alors oui, il nous faut préciser ce rapport de cause à effet, parce que en disant les choses ainsi et sans les préciser, ça peut laisser entendre qu'il suffit de s'occuper des pauvres pour qu'il y ait un phénomène de croissance dans l'Église. Or, ce n'est pas, et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Parce que, dit comme ça, ça laisserait supposer une logique de mérite des œuvres. Un salaire et non plus une grâce. Pourtant, le texte fait ce lien. Ce lien de cause à effet. Et à plusieurs reprises, dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, Luc, donc l'auteur du livre des Actes, relève cette unité de cœur du peuple de Dieu qui se traduisait par une solidarité économique des distributions, une recherche de justice et un phénomène de croissance. Déjà à la fin du chapitre 2, là aussi, dans un contexte d'aide sociale, de justice économique, il est dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Acte 2, 45-47. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils les partageaient, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité le cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Un peu plus loin encore que notre texte, au chapitre 6, là aussi, dans un contexte d'entraide économique, des distributions faites aux tables, il est parlé de la croissance de l'Église. Lorsque les conditions de cette distribution par l'établissement des diacres va être rétablie, il est dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Un autre texte dans le chapitre 12 du livre des Actes. Paul et Barnabas ont été chargés d'apporter une offrande à l'église de Jérusalem, une mission de secours envers les chrétiens de Jérusalem, et là encore, l'église croissait. Alors c'est quoi ce rapport qu'il y a ? Pour revenir à notre texte, il est question dans ce verset 34, « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. » Et là, on va arriver sur une citation donc d'un texte du livre du Deutéronome. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est une citation du texte d'un texte du livre du Deutéronome, chapitre 15. Voilà, si tu peux le mettre, s'il te plaît. Donc, lorsque tu seras rentré dans le pays promis, tu vas tous les 7 ans appliquer ce qu'on appelle une année sabbatique. Et dans cette année sabbatique, tu vas laisser les dettes. Et tu vas aussi laisser ton champ, tu ne vas pas planter, tu vas simplement te confier dans la grâce de Dieu. Et donc, si tu pratiques ces commandements, voici la promesse que Dieu te fait. Il n'y aura chez toi aucun indigent. Car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Israël n'a jamais pratiqué ces choses. Il n'y a pas de témoignage dans l'Ancien Testament d'une pratique de l'année sabbatique ou d'une pratique, encore pire, du jubilé. Hein, tous les 50 ans, en fait, 7 fois 7 ans, ont libéré les esclaves, ont libéré les dettes, ont annulé les dettes, et chacun revenait dans sa propriété. Ça veut dire que la notion de propriété en Israël était différente. On n'achetait pas un terrain, on louait un terrain jusqu'à l'année du jubilé. Mais ça, Israël ne l'a jamais pratiqué. Il n'y a pas dans les Écritures de témoignage d'une pratique d'année du jubilé ou d'année sabbatique. Parce que, imaginez le défi quand même. vous arrivez au bord de la septième année, vous plantez rien. Oh, qu'est-ce qu'on va manger? Avec quoi on va nourrir la famille? Il fallait que l'Israélite ait un élan de foi, d'abandon total et complet, en comptant sur la grâce de Dieu. Tu vas te nourrir de ce qui pousse tout seul. Tu vas te nourrir de ce qui pousse tout seul. Vous imaginez un peu là, la situation là? Tous les 7 ans, là, tu arrêtes de bosser, tu prends une année sabbatique, allez, ça c'est bien, hein, c'est repos, tout ça, mais oh, qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va faire pour payer le loyer, l'électricité, l'eau? Et juste avec cette idée, ben, tu me fais confiance et tout va bien se passer. Il semble que le défi de foi était trop grand et que Israël n'a pas pratiqué ces choses-là. Et si vous lisez la fin du livre des Chroniques, ben vous apercevez que c'est parce qu'Israël n'a pas pratiqué ces choses que pendant 70 ans, ils vont être captifs à Babylone. Dieu va compter les années de captivité à partir des années de sabbat qui n'ont pas été pratiquées. Donc c'est quelque chose qui était important pour Dieu. Je reviens à ma première église du livre des Actes. En fait, cette église du livre des Actes a pris ce texte du Deutéronome. Je ne sais pas s'ils l'ont fait consciemment ou si c'était simplement parce que l'Esprit de Dieu les animait d'une telle force, d'un tel amour et d'une telle solidarité que ça coulait de source. Ça coulait du rocher. Ce n'était pas une stratégie réfléchie. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a tout plein de trucs pour la croissance des églises, on va faire du management, on va faire des plans sur 6 ans, 3 ans, etc., etc., des objectifs à court terme, des objectifs à long terme. Moi, je ne vois pas une stratégie réfléchie par les apôtres pour envisager la croissance. Ça s'est fait spontanément parce que des cœurs étaient transformés. Parce que l'amour de Dieu animait cette église. Parce qu'il se laissait, dans cet amour, toucher par les besoins des autres. La compassion, ce n'est pas un truc pour fabriquer de la croissance. Ça ne peut pas être une question de management, de planification, d'objectifs à atteindre. Mais c'est une affaire de cœur, de mentalité changée, de métanoïa, de repentance et de l'engagement de notre foi motivée par l'amour. Paul dira aux Galates, la foi, elle est agissante par amour. Alors si les cœurs sont transformés, si nous prenons un tant soit peu au sérieux l'enseignement de Jésus-Christ, alors, désolé, là, je suis en train de me perdre dans mon texte. Oui, si les cœurs sont transformés, si on prend un peu au sérieux l'enseignement de Jésus-Christ, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors ce souci de justice vient comme une suite logique, normale, à la conversion et à la marche dans une vie de disciple. La croissance de l'Église n'est pas le but. Mais je dirais qu'elle va se constater là où la foi est agissante par amour. pas comme une planification, mais comme le fruit de l'Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de cette Église. Qu'est-ce qu'on dirait si au sein d'une Église, certains sont dans une surabondance et d'autres ont faim ou sont dans des situations économiques difficiles? Paul nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, petite mise en garde. Il ne s'agit pas de faire de l'action sociale ou de dire on va s'occuper des pauvres, des SDF, avec un peu un esprit de condescendance, c'est le supérieur qui va s'occuper de l'inférieur. Ce n'est pas dans un esprit où on va faire des œuvres, peut-être pour apaiser notre culpabilité, ou soigner son narcissisme. Ah, je suis quelqu'un de bien parce que je m'occupe des SDF, ou des femmes battues, ou tout ce que vous pouvez mettre dans ce qu'on appelle les œuvres sociales. Mais je déteste cette appellation, je déteste cet état d'esprit. Les œuvres, elles ne sont pas là pour que nous en tirions une gloire quelconque. De suite après ce passage, il est question d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Ah ouais, ils vont apporter eux aussi leur offrande. Ils ont vendu un terrain et ils vont apporter cette offrande. Mais les dispositions de cœur dans lesquelles ils font cette offrande ne sont pas agréées. Parce qu'on voit dans leur démarche que leur souci, ce n'est pas la compassion, ce n'est pas l'amour, c'est ce que l'Église va penser d'eux. Et pour ça, ils vont mentir aux apôtres, et Pierre va leur dire, c'est pas à moi que vous avez menti, c'est au Saint-Esprit. Leur disposition de cœur, à ce moment-là, c'était quelque chose qui était centré sur eux-mêmes. Ils venaient non pas pour glorifier Dieu, non pas dans un acte de compassion désintéressée, mais pour dire, regardez combien on a mis sur la table. Et vous savez ce qui va arriver à Ananias et Saphira. Alors, ce n'est pas dans cet esprit que l'Église du Livre des Actes faisait ces choses. Les œuvres sont là pour témoigner de ce que Dieu a fait et continue de faire en nous. On n'est pas sauvé par nos œuvres, très clairement. Mais par contre, Dieu a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Et que si on ne les pratique pas, on se prive de quelque chose. Et dans ce texte, il y a aussi quelque chose qui est important. C'est cette notion d'Église, corps de Christ. Ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Le problème de mon frère, ma sœur, c'était mon problème. Car Paul dira, nous sommes tous membres les uns des autres. À l'image de Christ, qui dans l'incarnation s'est rendu solidaire de la nature humaine. Il est venu vers nous. Il a pris notre chair avec toutes ses limites, avec toutes ses souffrances. Et il a mené ça jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Parce que vous voyez, il y a quelque chose qui me turlupine et qui me dérange ces dernières années, c'est que on a fait du salut quelque chose d'individuel. C'est mon expérience personnelle, c'est mon Jésus, c'est mon Sauveur. Puis l'Église, la notion d'Église, Église communauté, ça passe un peu à la trappe. Il y a un gars qui a écrit un bouquin un peu ironique, ça s'appelle Pop Théologie. Quelques années de ça. Et il analyse un peu le phénomène des églises évangéliques. Il dit, mais en quelque sorte, les églises évangéliques, elles collent bien à l'état d'esprit du monde. Parce que ce monde est de plus en plus individualiste, parce que ce monde en arrive à une société complètement éclatée. Et nous, on prêche quoi ? On prêche un salut individuel ? Jésus est venu pour pardonner mes péchés ? On prêche une expérience personnelle avec Dieu ? Et c'est ce qui est mis souvent en avant, en oubliant que l'Église, c'est le corps de Christ. Que Dieu est venu pour se faire un peuple. Que nous sommes une nation sainte, un peuple élu. Et qu'il n'est pas question, quelque part, d'un salut individuel. Il n'est pas question de limiter ce salut à quelque chose de purement individuel. Mais on est liés, tous ensemble. Que vous le vouliez ou non, que vous l'appréciez ou non, nous sommes liés tous ensemble. Et c'est tous ensemble que nous sommes le corps de Christ. Ce n'est pas chacun séparément. C'est tous ensemble que nous exerçons les dons et les ministères, c'est tous ensemble. Et je sais que mon ministère, je vous le dois, à cause de papy et de mamie qui ont prié, qui se sont tenus à genoux, alors qu'on essayait tant bien de mal que de marcher avec Dieu. Alors oui, cette Église, elle avait réalisé ces choses. Et ils étaient solidaires. Les problèmes de mon frère, de ma sœur, c'était mon problème. S'il y en a un qui pleure, ben je pleure avec lui. S'il y en a un qui se réjouit, je me réjouis avec lui. Vous savez, lorsque je parle de ces sujets, on me dit souvent, on me sort cette phrase. Ouais, mais Jésus, il a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ça a le don de m'irriter profondément. Parce que quand on dit ça, on ne regarde pas dans quel contexte Jésus a dit ça. Pourquoi il a dit ça ? Et puis que ce texte, vous aurez toujours les pauvres avec vous, c'est encore une citation du livre du Deutéronome. Le même texte, un petit peu plus loin, verset 11, si tu peux le passer. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre, à l'indigent dans ton pays. Quand Jésus dit cela, il dit ça dans un contexte où une femme est venue répandre un parfum de 300 deniers à ses pieds. Si on fait un équivalent aujourd'hui, ça fait à peu près 10 000 euros. Un an de salaire. Certainement, ça dote son avenir. Clac, au pied de Jésus. Réaction des apôtres, incompréhension. et un particulièrement, Judas. C'est à lui que Jésus va dire, vous êtes toujours les pauvres avec vous. Ben ouais, Judas, avec une telle mentalité, avec un tel esprit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, parce que Judas, tu es un idolâtre. Ton Dieu à toi, ce n'est pas le Messie Yeshua que tu côtoies chaque jour. Ton Dieu à toi, c'est Mammon. Et juste après ce texte, verset 11, Jésus lui dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Verset 14, Judas s'en va voir les sacrificateurs, les juifs, et il va vendre Jésus pour 20 pièces d'argent. D'un côté, une femme qui offre gratuitement une somme faramineuse comme un acte d'adoration. Et Jésus va dire ce qu'a fait cette femme, on le racontera. Et de l'autre côté, l'état d'esprit, et je dirais l'état d'esprit de ce monde, qui fait de la cupidité une valeur. Et je trouve ça effarant d'entendre l'un des plus grands économistes, Milton Friedman, hein, dans une tribune où on l'a certainement payé des milliers de dollars pour qu'il dise cela, la cupidité est une valeur. Non. Non, monsieur Friedman. La cupidité, c'est une idolâtrie. Et c'est Paul qui le dit. Alors oui, avec une telle mentalité, il y aura toujours des pauvres. Mais ça n'est pas la volonté de Dieu. Et lisez ce texte de Deutéronome parce qu'il est très intéressant. En quelques versets, Dieu va dire une chose et son contraire, mais il y a une raison pour ça. Il y a une raison. Oui, verset 4, il n'y aura pas d'indigents au milieu de toi. Verset 11, il y aura toujours des indigents. Pourquoi Israël? Pourquoi mon peuple? Parce que vous n'avez pas écouté mes commandements. Parce que vous n'avez pas entendu ma parole. Parce que vous êtes resté dur d'entendement, parce que l'idolâtrie est au fond de votre cœur. En fait, l'action de cette première église, du livre des Actes, est en train de réaliser ce que Dieu avait prévu pour Israël. Dieu avait rêvé et voulu pour Israël. Voilà le résultat de cet amour en action, réalisant le dessein prévu pour le peuple de Dieu. Voilà ce que l'Église des Actes a saisi. Voilà ce que Dieu honorait par sa présence. Voilà pourquoi il y a cette relation de cause à effet entre une croissance animée par un esprit d'amour et en acte. Envers tous. Dans un monde qui est marqué par l'orgueil et l'individualisme, puissions-nous actualiser ce plan de Dieu ? Toujours le même depuis Moïse. Puissions-nous actualiser ce plan aujourd'hui, au XXIe siècle ? Je ne dis pas que ce qu'a vécu l'Église des Actes est normatif. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il faut vendre vos propriétés, vos maisons, tout ça, habiter tous ensemble dans la même maison, hein, love and peace, alléluia. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que, à l'époque des Actes, ils ont trouvé des solutions dans leur contexte à eux, et que nous devons faire de même, trouver nos solutions dans notre contexte à nous. Lutter contre cet esprit de division qui existe dans le monde, parce que le monde est individualiste et personnel. Nous sommes le peuple de Dieu liés ensemble par le même Sauveur, liés ensemble par le même esprit. Lutter contre la puissance de Mammon qui dicte sa loi à ce monde. Et Et on a besoin de trouver ça. Ils étaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme. C'est beau quand on voit ça. C'est beau, ça fait rêver. Quelque part, on attend tout ça de l'Église. Mais combien on a besoin? Combien on a besoin de l'aide du Saint-Esprit, là, de l'aide du Seigneur pour réaliser ces paroles, pour réaliser ces choses. Vous savez, il y a quelque temps de cela, avec mon épouse, là, on est allé à Bristol, en Angleterre, on est allé voir une association qui œuvrait dans un quartier chaud. Et on a été très touchés par cette ville parce que c'est la ville de George Müller. Vous avez entendu parler de George Müller, hein, ce gars qui a élevé des milliers de gamins, qui était un homme de prière. La reine d'Angleterre a même témoigné, je crains plus les prières de George Müller que les armées de l'Europe. Et c'était très touchant de voir comment, 150 ans plus tard, toute la ville est encore marquée par cet homme. Toute la ville. Il y a le lycée George Müller, il y a l'avenue George Müller, il y a la fondation George Müller, il y a des statues George Müller, bien sûr, hein, dans les jardins, tout ça. Toute la ville, elle est marquée par cet homme. Simplement parce qu'il a pris au sérieux cette notion, oui, il y a besoin de justice là. Il y a besoin de justice et il a fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et alors, l'association qu'on est allé voir, je vous dis, on est allé les voir dans un quartier vraiment délabré, hein, la zone de la zone, tout ça, et ils nous disent, bon, écoutez, là, on est un peu pris par les activités, tout ça. Passez ce soir, on vous donne l'adresse. Et puis, on va voir cette adresse. Et on se trouve dans un quartier chic avec des Land Rover, des Bentley, des Jaguars partout. Je dis non, il y a un souci là. Il y a un souci, c'est pas, on a dû se tromper en notant l'adresse, c'est pas la bonne adresse. Et puis, quand même, on se dit, bon, ben, on est là, on va aller sonner à la porte. Alors, une belle maison avec des colonnades, tout en bois, enfin, quelque chose de magnifique, vraiment. Hein. Et en fait, c'est la maison de George Müller. Et dans cette maison de George Müller, il y a un couple avec une vingtaine de jeunes qui habitent là, hein, et qui après œuvrent dans toute la ville. Et ça nous a vraiment touchés. De voir comment l'héritage de cet homme continuait encore et comment cet homme continuait à marquer la ville et comment cet homme qui a été un héros de la foi était toujours là présent. Toujours là présent. Et qu'il a marqué les consciences, qu'il a témoigné simplement parce que son souci c'était la justice du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Père pour...